Voltaire. Né à Paris en 1694, François-Marie Arouet, dit Voltaire, subit très vite les conséquences de son esprit frondeur. Il est en effet emprisonné à la Bastille. Il vit pendant quelque temps à la cour de Prusse, puis demeure 3 ans en Angleterre de 1726 à 1729. La publication des Lettres philosophiques en 1734, également appelée Lettres anglaises, entraîne une condamnation par le Parlement et le force à se réfugier en Champagne, à Cirey. Après sa brouille avec Frédéric II, il se retire en Suisse, près de Genève, puis à Ferney. Il a écrit plus de 10 000 lettres. Son œuvre est aussi variée qu'abondante. Les Lettres philosophiques constituent un véritable manifeste des Lumières. Elles montrent à quel point Voltaire s'enthousiasme pour les idées démocratiques qui règnent en Angleterre et plus exactement pour le système de la monarchie constitutionnelle. Dans tous ses écrits, on retrouve les mêmes attaques contre l'intolérance, la superstition, le fanatisme. Il s'y déclare déiste et ami du progrès.
Le saviez-vous ? Philosophie et religion. Dans le dictionnaire de l'Académie, publié en 1694, le mot « lumière » est d'abord employé au sens métaphorique, dans un registre théologique. On parle de « lumière de la foi » ou de « lumière de l'Évangile ». Dès le milieu du XVIIIe siècle, son emploi commence à évoluer. Dans une lettre adressée à Helvétius le 26 juin 1765, Voltaire écrit « Il est fait depuis 12 ans une révolution dans les esprits qui est sensible. La lumière s'étend certainement de tous côtés. » En Allemagne, où le mouvement fait florès, Kant parlera d'Aufklärung. Le terme désigne d'abord l'attitude intellectuelle consistant à se libérer du joug de l'obscurantisme religieux, par le recours à une méthode expérimentale, empruntée à la science, puis par métonymie, les adeptes de cette méthode rationaliste, c'est-à-dire les philosophes eux-mêmes. Dans son ouvrage intitulé « L'ami des hommes » ou « Traité sur la population » publié en 1756, Mirabeau Père définit la philosophie comme l'art de raisonner l'irréligion. Mais c'est encore Voltaire le plus ardent dans la lutte contre la religion. « L'infâme, déclare-t-il, c'est l'Église. »
Rousseau. Autre philosophe de l'époque des Lumières, Jean-Jacques Rousseau fraya un temps avec Diderot et les encyclopédistes, mais ses idées finirent par le brouiller avec eux. Il insiste sur cette civilisation qui éloigne l'homme de lui-même et le dépouille de sa véritable matière. Son discours sur les sciences et les arts, publié en 1750, est une attaque violente contre cette même civilisation. Ses principales œuvres sont « Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » en 1755, « Julie ou la nouvelle Héloïse » en 1761, « Du contrat social » en 1762, « Émile ou de l'éducation » en 1762, « Les confessions » qui sont une publication posthume en 1782 et « Les rêveries du promeneur solitaire » publication également posthume en 1782. Contrat et nature. Admirateur de Montesquieu, Rousseau lui reproche cependant de ne pas avoir construit de système politique nouveau et de s'être limité à une description des formes de gouvernement déjà existantes. Avec le contrat social, nous entrons de plein pied dans la science politique. Dès le sous-titre, qui est « Principe du droit public », l'objet du contrat est exposé. Il veut fonder la société civile sur un contrat social par un traité de droit politique. Tout comme Locke ou Montesquieu, Rousseau commence par une réflexion sur l'état de nature, véritable âge d'or à ses yeux. Dans l'état de nature, l'homme est heureux car les seuls maux qu'il craigne sont la douleur et la faim. Il n'a nul besoin de ses semblables et n'en reconnaît aucun individuellement. Cependant, ne serait-ce que pour fonder une famille, il est conduit à fréquenter ses semblables. L'état de nature est encore bien heureux jusqu'à l'apparition de la propriété privée. Après ce premier stade, les plus riches conçoivent un gouvernement afin de faire défendre leurs propriétés. Enfin, les gouvernants ainsi nommés se muent en despotes et règnent sur un peuple d'esclaves.
Un peu de technique. Les mots du rousseauisme. Contrat social. En philosophie politique, c'est la théorie selon laquelle l'autorité politique dérive d'une convention originelle par laquelle les hommes renoncent à la totalité ou à une partie de leurs droits naturels en échange d'une sécurité et d'une liberté garantie par la loi. Conscience. Dans l'Émile, Rousseau l'envisage comme ce qui est, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. État de nature. C'est l'état préliminaire des hommes en société civile. L'état d'indépendance à l'égard de toute loi. Volonté générale. C'est la volonté du corps social uni par et dans le contrat social. Considéré non comme un agrégat d'individus, mais en tant que personne morale et soucieuse de l'intérêt commun.
Libéralisme et liberté. Aucun retour en arrière possible dans cette société civile coercitive, mais Rousseau veut préserver la liberté individuelle. Le libéralisme qu'il prône dépasse les conceptions de Locke et de Montesquieu, car il n'envisage pas un partage équilibré du pouvoir autrefois absolu, mais un transfert de souveraineté du prince au peuple. On pourrait craindre de remplacer le despotisme d'un seul par celui de tous, mais Rousseau ne conçoit plus la seule liberté naturelle. Elle est supplantée par la liberté civile. Chaque citoyen engage sa liberté envers le peuple entier et non envers un individu ou un groupe. Il demeure de ce fait libre de nature et soumis à son propre engagement par l'exercice de sa liberté civile. Rousseau prévoit l'organisation à venir du gouvernement et s'attache à modifier le système de la représentation. Le peuple s'exprime par la volonté générale qui est acquise avec l'émergence d'une majorité. Si la taille de l'État s'y prête, le peuple vote directement. Autrement, il désigne non des représentants, mais des commissaires qui sont des commis à la préparation des lois. Seul le peuple décide en se prononçant par le vote. L'exécutif ne peut être ôté au peuple pour être confié à un seul ou à un groupe, pas plus que ne peut l'être le législatif. À partir de là, Rousseau envisage alors les différentes formes de gouvernement. Il rejette la démocratie qui serait inapplicable, car le peuple ne peut pas à la fois faire les lois et les exécuter. Il ne refuse pas la monarchie, qui est adaptable à son contrat sous la forme d'une monarchie républicaine, dans laquelle le monarque est élu. Mais le meilleur gouvernement est selon lui aristocratique, où quelques-uns, élus, gouvernent mais ne détiennent pas la souveraineté qui ne peut être fractionnée. Choisis par la volonté générale, ils ne peuvent que concourir au bien commun. Kant. Né en 1724 à Königsberg, Emmanuel Kant occupe à partir de 1755 un poste de professeur à l'université de Königsberg. L'idée critique apparaît pour la première fois dans un petit écrit intitulé « De la forme et des principes du monde sensible et du monde intelligible », connu sous le nom de « Dissertation de 1770 ». Mais il faut attendre 1781 pour voir apparaître son œuvre majeure, « La critique de la raison pure ». Les autres écrits se succèdent rapidement avec « Prolégomène » en 1783, « Les fondements de la métaphysique des mœurs » en 1785, la seconde édition de la critique en 1787, la critique de la raison pratique en 1788, la critique du jugement en 1790 et la religion dans les limites de la simple raison en 1793. L'attitude critique. Résumons la doctrine kantienne. Le criticisme, mot qu'il n'utilise pas lui-même, a un moyen d'échapper au scepticisme en repoussant le dogmatisme dont il se sert néanmoins pour aboutir à une forme originale d'idéalisme. Quelle est la valeur vraie de nos connaissances et qu'est-ce que la connaissance? Ces deux questions qui mettent en rapport la science et la morale lui font mettre au point une double critique de la raison. La critique de la raison pure, qui permet de mieux cerner ce que nous pouvons connaître, la critique de la raison pratique pour répondre au « comment faire ». Dans l'introduction de la première, Kant affirme que toute notre connaissance commence avec l'expérience. Notre esprit n'est éveillé et mis en action que si des objets frappent nos sens. Un peu plus loin, il note que si toute connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience, celle-ci ne nous renseignant que sur les choses observées, pas sur toutes les choses observables. Ainsi, de telles connaissances sont nommées a priori et sont à distinguer de celles dites empiriques et qui ont leur source a posteriori, à savoir dans l'expérience. Si les sciences n'ont pas besoin de critiques préalables, ce n'est pas le cas de la métaphysique. Dans la dernière partie de la critique de la raison pure, c'est ce que Kant essaye de faire. L'étude de la raison est le moyen de saisir a priori l'inconditionné. Il définit trois types de raisonnement, le raisonnement catégorique, le raisonnement hypothétique et le raisonnement disjonctif. Ceux-ci permettent d'atteindre l'âme, le monde et Dieu. L'analyse transcendantale. Le terme transcendantal provient de la métaphysique d'Aristote où les transcendentaux sont des propriétés de l'être comme la vérité et la bonté. Chez Kant, le transcendantal se rapporte uniquement à la connaissance a priori et s'oppose aux logiques. L'analyse transcendantale est la méthode de recherche. La déduction transcendantale permet de trouver les principes qui fondent la connaissance scientifique. Kant discerne trois fonctions de la connaissance entravant le développement de la critique sur trois fronts. L'esthétique transcendantale qui est la critique de la sensibilité, l'analytique transcendantale qui est la critique de l'entendement, la dialectique transcendantale qui est la critique de la raison. La philosophie au XIXe siècle. Le premier XIXe siècle est dominé par la philosophie allemande et la figure de Hegel. C'est également au cours du siècle que la discipline connaît parallèlement aux sciences des développements dans de nouveaux domaines de la pensée, comme la sociologie ou le marxisme. Hegel. Né à Stuttgart en 1770, Georg Wilhelm Friedrich Hegel abandonne une fois ses études achevées la carrière d'ecclésiastique pour celle de précepteur. Il crée une revue, Journal critique de la philosophie, dans laquelle il s'attaque à Kant, à Jacobi et à Fichte, car ceux-ci placent la foi au-dessus de la science. Pour lui, la philosophie est un savoir absolu. La phénoménologie de l'esprit, publiée en 1807, est une introduction à son système. De 1812 à 1816, il publie en trois volumes « La science de la logique », puis en 1817 « L'encyclopédie des sciences philosophiques », un bref exposé de toute sa philosophie. En 1821, il publie « La philosophie du droit ». La dialectique, surmonter les contradictions. Pour Hegel comme pour Platon, la dialectique représente le mouvement de la philosophie et le développement de la raison. Elle a pour objet de lever les contradictions, autrement dit de les surmonter. Elle procède par thèse, antithèse et synthèse. La thèse est appelée concept abstrait, l'antithèse concept dialectique ou réfléchi, et la synthèse, concept spéculatif. La philosophie du savoir vrai, de la nature et de l'esprit. Hegel définit la philosophie comme le tout d'une science qui en représente l'idée et la divise en trois parties. La première partie est la logique, la science de l'idée en soi et pour soi. Elle se définit comme une ontologie qui étudie l'être, l'essence et le concept. La deuxième est la philosophie de la nature. Science de l'idée dans son altérité. La nature s'exprime par la mécanique, la physico-chimie et la biologie. La philosophie considère-t-elle un système de degrés dont l'un dérive de l'autre, non pas en ce sens que l'un est produit naturellement par l'autre, mais il provient de l'idée intérieure qui fait le fond de la nature. La troisième est la philosophie de l'esprit. L'idée revenant de son altérité en elle-même. Elle ne doit pas être prise pour la connaissance des hommes qui tentent de chercher leur faiblesse ou leur passion, mais s'avère être une science qui présuppose la connaissance humaine. Religion et philosophie. La religion est l'ultime étage de la dialectique hegelienne. Hegel définit d'abord l'esprit absolu, qui est d'abord art, puis religion révélée, enfin philosophie. La religion se doit d'être révélée par Dieu, car si le mot « esprit » a un sens, il signifie la révélation de cet esprit. Les leçons sur la philosophie de la religion portent essentiellement sur la construction théorique du discours religieux. Il s'agit en fait d'un véritable exposé de ce qu'est la religion. Pourtant, elle ne constitue pas la plus haute vérité, puisqu'il lui manque de penser l'esprit et de saisir la nécessité de son développement. La dialectique de l'histoire. Le principe essentiel qui dirige la philosophie de l'histoire de Hegel est que l'idée gouverne le monde et que l'histoire est rationnelle. Comme il dit, tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. La dialectique n'est donc pas seulement la propriété de la pensée, mais aussi celle des choses. Cette conception de l'histoire montre comment ces deux aspects de la dialectique se rejoignent finalement. Au déterminisme historique succède un déterminisme dialectique qui, au contraire du premier, ne se définit pas par le progrès de réalité ou par celui de pensée, mais par un progrès des choses et de la pensée. Le positivisme. Né à Montpellier en 1798, Auguste Comte fait polytechnique avant de devenir secrétaire de Saint-Simon, auprès de qui il ébauche son système. De 1824 à 1842, il publie son cours de philosophie positive. En 1847, il institue une religion de l'humanité et s'en nomme grand pontife. En 1848, il fonde la Société positiviste et meurt 9 ans plus tard. Ses autres principales œuvres sont le système de politique positive et la religion de l'humanité, qui sont publiées entre 1851 et 1854. Par la sociologie, Auguste Comte apporte une solution à la crise du monde moderne en mettant en avant un système d'idées scientifiques qui autorise la réorganisation sociale. La sociologie, pour lui, est une science synthétique qui part des lois les plus générales et les plus fondamentales de l'évolution humaine. Elle permet de découvrir un déterminisme général, utilisable par les hommes de n'importe quelle société. Les grandes étapes de l'histoire de l'humanité sont fixées par la façon de penser, le positivisme universel en est l'ultime étape. Le nom de philosophie positive a été forgé par Comte pour désigner le système universel des connaissances scientifiques. Il précisera bien que l'adjectif « positive » lié à cette nouvelle philosophie a au moins 5 sens qu'il admet d'ailleurs tous et qui sont les suivants. Le réel, opposé au chimérique, l'organique, opposé au négatif, le précis, opposé au vague, l'utile, opposé à l'oiseux, et le relatif, opposé à l'absolu. Le terme de positivisme trouve son sens équivalent dans le mot empirisme lorsque Comte veut montrer que la seule source de connaissance reste l'expérience. La philosophie aide à faire la synthèse des vérités admises par les sciences. Son premier travail consiste à établir une classification de toutes ces sciences. L'ordre dans lequel celles-ci sont rangées révèle l'ordre dans lequel l'intelligence devient positive. Les sciences, en fait, sont dépendantes les unes des autres, mais plus l'objet d'une science est simple, plus les lois sont d'ordre général. La sociologie est la science dont la fonction est de comprendre le devenir nécessaire de l'histoire. Le but même de cette science donne donc priorité au tout sur l'élément et à la synthèse sur l'analyse. En France, au XIXe siècle, les principaux positivistes sont Émile Littré et Hippolyte Taine. Le positivisme en Angleterre, héritier de l'empirisme qui le précède, est développé par John Stuart Mill. Le marxisme. Né à Trèves en 1818, Karl Marx est le principal fondateur de l'Internationale. Expulsé d'Allemagne puis de France, il publie en 1848 avec Engels, depuis Bruxelles, mais en allemand, le Manifeste du Parti communiste. Il retourne en Allemagne, d'où il est expulsé à nouveau pour avoir pris la tête d'une revue révolutionnaire, et il s'installe à Londres. En 1867, il publie le premier tome du Capital, auquel il travaille ensuite avec Engels. Son but est de fonder une école scientifique destinée à constituer les fondements d'une société nouvelle. Du point de vue philosophique, le marxisme s'inspire du matérialisme français du XVIIIe siècle en réaction contre les idéalistes. Il s'appuie sur une conception de l'histoire appelée matérialisme historique, ainsi que sur la méthode dialectique, l'ensemble constituant le matérialisme dialectique. L'économie marxiste est avant tout une critique du capitalisme, qui est voué à disparaître en ce qu'il est une exploitation de l'homme par l'homme, mais également en raison des crises qui le secouent et qui sont des révélations de ses faiblesses structurelles.
Le saviez-vous ? Un camarade capital. Lié à Karl Marx par une solide amitié, Frédéric Engels est un fils d'industriel qui connaît bien la question ouvrière. Un premier séjour en Angleterre, effectué en 1842, le met au contact des réalités tragiques de la vie quotidienne du prolétariat britannique des usines de filature de Manchester. C'est à Paris, en 1844, qu'il rencontre pour la première fois Karl Marx, nouant avec lui une amitié exemplaire qui durera jusqu'à la mort de ce dernier. Après le décès de Marx, il consacre son existence à la diffusion de la pensée de son ami, tout en continuant à écrire lui-même pour exposer les voies du socialisme scientifique. sa collaboration au Capital de Marx est fondamentale. Dans ses travaux d'économie politique, il expose les principes du matérialisme historique. Le dépérissement de l'État doit intervenir de lui-même, sans qu'il soit nécessaire de l'abolir ou de le détruire brutalement. Au moment où le communisme sera prêt à prendre en charge l'ensemble de ses fonctions économiques et sociales, sous la conduite du prolétariat.